Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hue qui fait son retour ce matin, je le salue, et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. Deuxième temps de notre série consacrée aux aspirations indépendantistes. Après avoir évoqué hier la crise catalane, avant d'aborder demain le statut de la Nouvelle-Calédonie, tournons-nous aujourd'hui vers le Royaume-Uni. Alors que les projets de réunification irlandaise et le référendum d'autodétermination écossais viennent questionner l'identité britannique, l'introuvable identité britannique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'espoir pour l'Écosse, c'est de devenir une nation indépendante. Et je l'appelle de mes voeux à ce que ce référendum soit organisé l'année prochaine. Alors, tenez-vous prêts.
On devrait être indépendant comme tout le monde. Aucun autre pays ne devrait nous gouverner ou nous contrôler. Il est temps pour nous de demander le divorce.
Je suis contre l'indépendance. Je crois que notre pays a beaucoup à offrir. Cependant, je ne voudrais jamais voir l'Écosse quitter le Royaume-Uni.
Avec ma femme, on adore l'Europe. On est souvent allé en voyage là-bas. On a des amis européens. Donc, sans aucun doute, nous sommes européens.
Bien sûr, je me sens même plus européen que britannique, je dirais. C'est typique des Écossais de ressentir ça.
C'est l'une des conséquences largement impensées au moment où les Britanniques choisissaient de quitter l'Union européenne le 23 juin 2016. La menace désormais réelle de voir ce Royaume-Uni se désintégrer. En effet, une fois le Royaume sorti de l'Union européenne, quel avenir pour une Écosse dont les ressortissants ont voté à 62% pour y rester? Quel statut pour la frontière nord-irlandaise dont l'ouverture est garante depuis l'accord du vendredi saint de 98 de la paix dans cette région marquée par des décennies de violence? 3 ans plus tard, alors que les modalités du Brexit sont toujours inconnues, la première question... Conduit la dirigeante écossaise Nicola Sturgeon à demander un nouveau scrutin sur l'indépendance de sa nation, alors que la seconde bloque carrément les négociations sur le Brexit. Dans quelle mesure les aspirations irlandaises à la réunification et écossaises à l'indépendance menacent-elles l'intégrité territoriale du Royaume-Uni? Existe-t-il une convergence entre ces deux aspirations, alors que parallèlement à celle-ci ressurgit en Angleterre un véritable nationalisme anglais? Peut-on parler d'une identité britannique commune aux 4 nations du Royaume, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord? Pour évoquer toutes ces questions, 2 invités ce matin. Philippe Covey, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en civilisation irlandaise à l'université de Poitiers. À nos côtés, en duplex de Toulouse, Nathalie Duclos, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université de Toulouse Jean Jaurès. On va commencer avec vous, tiens, Nathalie Duclos, parce que c'est vrai que dans les analyses sur le Brexit, on a beaucoup évoqué le rapport, disons, ambigu à l'Union européenne. Finalement, ce royaume n'était pas vraiment, n'a jamais eu vraiment le projet d'appartenir à l'Europe. Ce qu'avait bien sûr intuité, on l'a souvent répété, Winston Churchill, qui avait parlé des États-Unis d'Europe, que les Britanniques avaient vocation à regarder, mais de très très loin. Dans le Brexit, on a aussi beaucoup parlé de cette peur de l'immigration, assez largement instrumentalisée par les pro-Brexit. Mais on a peut-être occulté un tout petit peu, Nathalie Duclos, la dimension purement identitaire du problème, en oubliant que c'est un pays qui est composé de plusieurs nations, de plusieurs identités nationales, qui ne se retrouvent peut-être pas autant qu'on l'imaginait dans le projet politique britannique. Et c'est aussi ce qu'on observe là avec ce Brexit, c'est aussi ce qu'il révèle, Nathalie Duclos.
Oui, disons que le Brexit exacerbe des questions sous-jacentes qui ont peut-être été occultées par les Anglais, parce que les Écossais, eux, finalement, ils ont enchaîné un référendum d'indépendance en 2014 et le référendum européen en 2016. Donc, ces questions-là sont quand même débattues non-stop depuis plusieurs années en Écosse. Mais c'est peut-être l'Angleterre qui se réveille aux questions identitaires au sein du Royaume-Uni.
Oui, et d'ailleurs, il y a un nouveau nationalisme anglais, peut-être pas nouveau, mais en tout cas un retour en force, on va en parler dans un instant. Philippe Covey, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que dans le Brexit, on avait quelque chose aussi de l'ordre d'une crise identitaire interne? Est-ce que lorsque les Écossais, les Irlandais votent pour rester à l'intérieur de l'Union européenne, il y a aussi finalement derrière quelque chose de l'ordre d'un rejet, d'une mise à distance du projet politique britannique?
Je pense que le projet politique britannique est globalement en crise. Tony Blair, avec son projet de, avec sa politique de devolution, avait essayé de résoudre cette question identitaire de manière assez pragmatique et peut-être même un peu opportuniste. Mais néanmoins, il n'a pas la devolution n'a pas vraiment solutionné les questions. Et vous parliez tout à l'heure de la question anglaise. La devolution, justement, ne donne pas de statut à cette Angleterre. Il y a une sorte de no man's land politique et institutionnelle, et donc identitaire aussi sur la question sur l'Angleterre. Et je crois que le Brexit, comme disait Nathalie, exacerbe cette espèce d'impensé ou cette espèce de tension, cette sorte de tension structurelle fondatrice du Royaume-Uni.
Et c'est ça qui fait, qui revivifie d'une certaine manière ce nationalisme anglais dont on voit très clairement qu'il est de retour. Quand on regarde les études, il y a de plus en plus d'Anglais qui se disent anglais avant d'être britanniques. Les chiffres sont très clairs sur ce point-là. Qu'est-ce que ça vous semble révéler, ça ?
Je crois que ça révèle cette crise du projet, ce qu'on pourrait appeler la Britishness, enfin la britannicité, je ne sais pas comment dire ce mot, cette espèce d'identité britannique qui a été non questionnée globalement jusque les années d'après-guerre, jusqu'aux années 60, plus ou moins. Et à partir des années 60, vous avez des mouvements nationalistes assez. Alors, j'exclus la dimension irlandaise qui est beaucoup plus profonde historiquement, mais notamment en Écosse, le nationalisme écossais ressurgit, le nationalisme gallois ressurgit, et donc cette identité britannique qui globalement était stable et non questionnée jusqu'aux années 60 est questionnée. Avec des tensions évidemment, des positionnements politiques extrêmement polarisés souvent, et on essaye de résoudre cette question alors à la manière thatchérienne, c'est-à-dire zéro concession aux périphéries celtiques, donc un centralisme unioniste forcené presque, et à la manière Tony Blair, c'est-à-dire une sorte de solution pragmatique où on donne à l'Écosse, au Pays de Galles ce qu'ils demandent. Mais même cette solution pragmatique qu'a proposé Tony Blair n'arrive pas à apaiser ces tensions.
Nathalie Duclos, sur cette montée en puissance de ce nationalisme, ce patriotisme anglais, sur ce qu'il nous dit de la crise de la britannicité.
Ce qui est intéressant avec la résurgence ou la montée du nationalisme anglais, c'est qu'il il se définit par deux choses. D'une part, par un sentiment anti-écossais et anti-irlandais, une rancœur vis-à-vis du fait que l'Angleterre n'a pas de voix au chapitre, puisque l'Angleterre est la seule des nations britanniques à ne pas avoir son propre gouvernement et son propre parlement. Mais il se définit également par un sentiment anti-européen assez profond, comme on le voit bien avec le Brexit. C'est ça qui fait sa différence avec le nationalisme écossais, qui lui se définit par sa différence d'avec l'Angleterre, mais non par opposition avec l'Europe.
Je suis étonné, en vous entendant l'un et l'autre, aucun de vous ne mentionne la question du multiculturalisme. Parce que quand on regarde précisément les études d'opinion, ces Anglais qui se disent Anglais avant d'être Britanniques, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'en réalité, ils affirment une identité blanche et une forme de rejet du multiculturalisme porté, lui, par le projet britannique. Philippe Covey.
Alors, il est...
C'est ce que disent ces Anglais précisément.
Mais justement, je pense que c'est finalement la même question, c'est-à-dire que la Britishness qui avait été instaurée progressivement comme culture uniforme et commune, c'était en fait une culture anglaise, c'était en fait l'Englishness transféré à l'ensemble du Royaume-Uni.
Universalisé.
Et ce qui pose la question, justement, à l'identité anglaise, comme disait Nathalie, c'est l'émergence, à partir des années 60, de revendications culturelles et politiques assez fortes, depuis le Pays de Galles, depuis l'Écosse, depuis l'Irlande du Nord. Et là, l'Angleterre, tout à coup, découvre que ce qu'elle croyait être acquis et accepté par tous, ne l'est pas. Et c'est à partir de là que l'État britannique essaye de devenir un État plurinational. Jusqu'aux années 60, l'État britannique n'était pas un État plus... D'ailleurs, on disait à peine le mot « British ». C'était « English » qualifiait la totalité du royaume. Et progressivement... les questions de relations avec les périphéries celtiques se sont posées, et c'est là que l'Englishness se transforme en un rejet de la diversité nationale du Royaume-Uni.
Périphérie celtique, mais au-delà en réalité, c'est toute la question du modèle multiculturel et du modèle d'intégration des autres populations du monde qui sont venues s'installer au Royaume-Uni.
Alors vous avez ça aussi, et je pense aussi qu'il y a une dimension impériale, c'est-à-dire la fin de l'Empire a aussi certainement posé une question forte à l'identité anglaise.
Nathalie Duclos.
Oui, alors les Écossais ont souvent beau jeu de dire qu'ils ne sont pas aussi xénophobes que les Anglais, qu'ils ne sont pas dans le rejet du multiculturalisme. Mais il faut savoir que la question du multiculturalisme, elle se pose essentiellement en Angleterre. Et ça fait peu de temps que vous avez une forte présence de minorités ethniques également en Écosse. L'Écosse n'avait que 2% de minorités ethniques jusqu'à il y a quelques années. À l'évidence, la question de l'intégration des minorités ethniques n'était pas aussi présente dans le débat public.
Je voudrais qu'on fasse un peu de perspective historique et puis ensuite on en viendra vraiment aux questions purement contemporaines pour parler de l'Écosse, peut-être d'un nouveau référendum sur l'indépendance et puis de l'Irlande, peut-être une réunification à venir. Philippe Covey, Nathalie Duclos, faisons un peu d'histoire. 1707, les royaumes d'Écosse et d'Angleterre fusionnent pour former le royaume de Grande-Bretagne. Selon les termes de l'acte de l'Union de 1707, les deux parlements respectifs sont dissous au profit d'un seul parlement commun, le parlement de Grande-Bretagne. Quelle est l'idée à ce moment-là de l'identité britannique qu'il y a derrière ce premier acte d'union? Et puis ensuite, on avancera presque un siècle plus tard, parce qu'il va y avoir un nouvel acte d'union en 1800 qui va rattacher l'Irlande. Et je me tournerai vers Nathalie Duclos pour voir ce qui, à ce moment-là, peut-être change dans le projet politique et donc l'identité britannique. Philippe Covey, sur ce premier acte de l'union, 1707, c'est quoi la britannicité qui découle de cet acte politique?
Alors là, vous avez évidemment scientifiquement plein de débats, plein d'interprétations. Moi, je serais assez d'accord avec une interprétation qui a émergé globalement dans les années 90 autour d'une historienne très connue, très célèbre, Linda Carley, qui dit clairement que les unions, notamment l'union écossaise, est une colonisation par l'Angleterre de l'ensemble de l'espace des îles britanniques. Et que donc 1707... contrairement au mythe établi par l'État britannique qui veut que tout le monde y trouve son intérêt, qu'il y a une sorte de fusion culturelle entre les identités écossaises et anglaises, Linda Carley démontre que c'est surtout, d'abord et avant tout, un processus de colonisation dans l'intérêt de l'Angleterre et non pas dans l'intérêt des Écossais.
Passer la parole tout de suite à Nathalie Duclos sur ce point-là. L'acte d'union 1707, c'est un acte de colonisation avant tout, Nathalie Duclos?
Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'emploi de ce terme-là, colonisation, qui implique notamment que l'Écosse aurait perdu toute son autonomie, ce qui n'est pas du tout le cas. L'Écosse demeure très autonome au sein de la nouvelle Grande-Bretagne créée en 1707. Alors il est vrai que cette union, elle est dans l'intérêt de l'Angleterre, mais elle est également dans l'intérêt de l'Écosse pour d'autres raisons. À long terme, l'Écosse y gagne beaucoup au plan économique. L'Écosse est très sous-développée par rapport à l'Angleterre au moment de l'acte d'union. Et donc c'est pour des raisons pragmatiques que les élites des deux pays signent cette union. Le peuple des deux pays n'est pas d'accord avec l'union, mais bon, on n'écoute pas, on ne donne pas grand cas de ce que pense le peuple en 1707.
Et est-ce que vous seriez aussi critique de l'idée d'un acte de colonisation s'agissant du nouvel acte d'union de 1800 qui va rattacher l'Irlande, Nathalie Duclos, ou est-ce que là, ça ressemble davantage effectivement à quelque chose qui relève d'une colonisation, Nathalie Duclos?
Oui, tout à fait. La seconde union, celle de 1800, est une forme une confirmation en tout cas d'une colonisation, d'une domination en tout cas de longue date de l'Irlande par la Grande-Bretagne. Et cette union-là, elle n'est pas volontaire, contrairement à celle de 1707, qui est signée volontairement, certes par des élites, mais qui est signée volontairement.
Philippe Covey, est-ce que va découler de ce nouvel acte d'union de 1800 une nouvelle conception de la britannicité?
Je ne sais pas s'il découle de cet acte une nouvelle conception de la britannicité. En revanche, il découle de cet acte d'union une nouvelle conception de l'irlandicité. C'est-à-dire que l'union qui se veut justement une prise de contrôle sur l'Irlande, l'union de 1800, qui se veut être une prise de contrôle sur l'Irlande, génère une opposition assez dure et de très long terme en Irlande, et surtout génère une polarisation des deux communautés religieuses. C'est-à-dire qu'on avait vu au 18e, globalement, même si tout ça c'était très fragile, mais on a vu globalement une conjugaison des intérêts protestants et des intérêts catholiques autour d'une vision un peu démocratique de l'Irlande. Et cette conjugaison des deux communautés, enfin cette entente entre les deux communautés, éclate complètement à cause de l'Union. Les protestants irlandais voient dans l'Union une opportunité très forte, politique, économique, culturelle, alors que les Irlandais catholiques, eux, voient dans cette Union un écrasement, un rejet de leur identité. Mmh. Donc je pense que l'Union de 1800 contient les germes de cette tension, finalement, entre différentes conceptions des identités au sein du Royaume-Uni.
Justement, revenons à l'époque contemporaine. On garde l'Irlande pour tout à l'heure. On va commencer avec l'Écosse. On est donc au début du mois. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon s'exprime devant des manifestants rassemblés à Glasgow. Écoutez.
Then together, we can get on with the job that it is all about of building that better, more prosperous, fairer, more equal, more outward-looking, more open, more inclusive, more diverse Scotland that all of us believe in our hearts is possible. Let's win our independence. Let's win the Scotland we want to see. Thank you very much.
Ah, c'était la première fois que la Première ministre écossaise s'exprimait publiquement pour réclamer un nouveau référendum après celui de 2014 où le maintien dans le Royaume-Uni l'avait emporté à plus de 55% des voix. En 2014, les Écossais avaient rejeté l'indépendance, sauf que depuis, il y a eu le Brexit, Nathalie Duclos. Est-ce que vous pensez que Sturgeon peut obtenir aujourd'hui l'organisation d'un nouveau référendum et est-ce qu'il peut éventuellement aboutir à l'indépendance?
Alors, cela va être
je vous pose la question
difficile.
De façon brutale, on va détailler. Hein,
mais... Oui, cela va être très difficile pour Nicola Sturgeon d'obtenir un second référendum. Je pense que le seul scénario qui rendrait cela possible serait premièrement l'élection des travaillistes et non des conservateurs. Et deuxièmement, une élection des travaillistes qui ne leur donnerait pas une majorité absolue au Parlement et qui les rendrait dépendants d'un groupe de 40 ou 50 députés nationalistes écossais à la Chambre des communes. Je pense que c'est le seul scénario qui fera que Sturgeon sera en position de force pour réclamer l'organisation d'un second référendum.
Un scénario assez peu probable, regarde des sondages, en tout cas aujourd'hui.
C'est pour ça que je pense que c'est très peu probable qu'elle obtienne un référendum dans un futur proche. Mmh.
Quelle est la position exactement, Nathalie Duclos, de Jeremy Corbyn à propos de la perspective possible d'un nouveau référendum en Écosse? On imagine que ça va être un des points qui sera abordé ce soir lors du débat télévisé, mais on sait déjà ce qu'il en pense.
Oui, alors c'est très difficile de savoir exactement quelle est la position des travaillistes parce qu'ils se dédient constamment et ce parce qu'il y a une contradiction, si vous voulez, entre ce que pense le leadership du parti à Londres et ce que pense le leadership de la branche écossaise du parti. Jeremy Corbyn serait apparemment assez ouvert à la possibilité d'un second référendum, mais la branche écossaise du parti y est très, très opposée. Et donc cela donne des déclarations tout à fait contradictoires. Hier même, Jeremy Corbyn a dit deux choses en apparence différentes sur cette question en Écosse. Et donc, parfois il dit qu'il l'autoriserait, sur le principe, il serait prêt à autoriser un second référendum, mais qu'il ne l'autoriserait pas pendant le premier mandat d'un gouvernement travailliste. Et d'autres fois, il a dit que non, ça ne serait pas pendant le premier mandat d'un gouvernement travailliste, mais seulement d'ici l'organisation des prochaines élections législatives en Écosse en 2021.
Sachant qu'il a dit que c'était ni nécessaire ni souhaitable. On comprend, Philippe Covey, que même si effectivement la seule porte, comme le dit Nathalie Duclos, c'est celle d'une victoire des travaillistes et qui se mettrait en coalition avec d'autres partis. Mais même cette porte-là, qui est déjà extrêmement fine, elle ne garantit rien en réalité pour l'indépendance éventuelle de l'Écosse.
Non, je pense que ces élections sont extrêmement ouvertes, tant sur le plan électoral. On ne voit pas trop bien quelle majorité va sortir de ces élections. Et je crois qu'elle est aussi très ouverte sur le contenu politique des grands partis, des grands partis nationaux, j'entends, donc parti conservateur, parti travailliste. Je pense que les deux partis ont une doctrine sur beaucoup de questions, pas seulement sur la question écossaise, mais sur beaucoup de questions, ont une doctrine qui n'est pas claire, ne veulent pas prendre de position très très définie sur la question écossaise, sur la question irlandaise. Boris Johnson, dans plusieurs déclarations, a bien montré qu'il ne maîtrisait pas vraiment la question irlandaise, ou qu'il ne voulait pas vraiment rentrer dans le détail de ce qu'il avait proposé pour l'Irlande du Nord. Ce sont, je pense, que les deux grands partis sont vraiment aujourd'hui en manque de ligne politique sur l'essentiel des grandes questions, donc y compris sur les questions écossaises et nord-irlandaises.
Et qu'en est-il du côté des nationalistes écossais, Nathalie Duclos ? Est-ce qu'on est aussi parfaitement clair, parce qu'on nous répète depuis le Brexit que les Écossais sont éminemment européens et que donc désormais l'indépendance est seulement, en tout cas d'abord et avant tout, un moyen de retrouver l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est un peu étonnant de se dire que le SNP, c'est un parti qui est à la fois nationaliste et pro-européen. C'est pas banal, Nathalie Duclos.
Oui, alors il y a une différence entre ce que disent le SNP en public et les divisions internes au camp indépendantiste sur la question européenne. Le SNP est très clairement pro-européen depuis les années 80, où il s'est converti à l'Europe en disant que finalement l'idée c'était de réagir aux peurs que l'Écosse ne pourrait pas survivre de façon indépendante. Et donc l'idée de devenir pro-européen, c'était de dire ne vous inquiétez pas, de toute façon l'Écosse fera partie d'un tout, d'un plus grand tout qui est celui de l'Union européenne.
Donc à ce moment-là, Nathalie Duclos, pardon de vous couper, mais c'est vrai que c'est un moment qui est très important. Il faut bien que les auditeurs aient en tête qu'au départ, le SNP n'était absolument pas pro-européen. Il a même fait campagne contre l'adhésion à l'Europe au moment du référendum de 75. Donc c'est important de comprendre ce virage-là, parce que j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire cette idée que ça serait un moyen pour les Écossais d'être protégés, que d'être dans un plus grand ensemble, mais on peut aussi se dire qu'il y a là quelque chose de purement tactique, c'est-à-dire que cette europhilie naissante, c'est aussi le meilleur moyen pour les nationalistes écossais d'organiser l'émancipation vis-à-vis de Londres, disons les choses.
Absolument, mais et en ce sens, l'européisme des Écossais, il est très britannique, dans le sens où il est très pragmatique, et ce n'est pas un européisme de cœur, ce n'est pas une croyance très profonde dans le projet européen. Mmh. Et les Écossais nationalistes aujourd'hui sont pro-européens en très grande majorité, mais il faut savoir quand même qu'il existe une minorité indépendantiste qui est eurosceptique pour diverses raisons, mais notamment pour la raison ancienne souverainiste qui est de dire que à quoi bon de se libérer de Londres si c'est pour rester sous les ordres de Bruxelles.
Philippe Covey.
Je pense que ces nationalismes celtiques, on a un peu la même question finalement en Irlande du Nord, ces nationalismes celtiques sur la question européenne, pour beaucoup, ont été pragmatiques. En Irlande du Nord, le Sinn Féin, donc le parti le plus radical de la communauté nationaliste nord-irlandaise, était globalement anti-européen jusque assez tardivement. Il n'y avait qu'un parti qui était vraiment pro-européen, c'était le parti le plus modéré, alors qu'il, lui, contrairement au SNP, était vraiment convaincu, défendait un européisme convaincu. Ces questions-là, finalement, je ne sais pas comment expliquer ça. Je serais assez d'accord avec Nathalie pour dire que il y a quand même une, même s'il y a des convictions pro-européennes dans les SDLP, il y a quand même une dimension pragmatique, c'est qu'il faut essayer de trouver un projet politique viable, crédible, et que l'Europe donne une sorte de crédibilité, une sorte d'apparence de raison, de modération dans ce projet nationaliste.
Le SDLP étant ce parti social-démocrate et travailliste qui fait partie du camp nationaliste. irlandais réputé comme un peu plus modéré que le Sinn Féin, mais tout à l'heure on aura l'occasion de faire un focus plus précis sur le cas irlandais. Nathalie Duclos, pour revenir un tout petit peu sur la question de l'Écosse, ces velléités indépendantistes écossaises, elles sont bien anciennes. Rappelons-nous que il y a 20 ans, l'Écosse obtenait enfin ce qu'il voulait, c'est-à-dire un nouveau Parlement, alors que l'acte de l'Union, justement, avait fait disparaître, fondre ce Parlement dans un ensemble plus global avec ce Parlement britannique. Mais finalement, qu'est-ce qui avait justement motivé les choses? Pourquoi ce nouveau Parlement écossais? Est-ce que c'était un rejet de l'identité britannique, telle qu'elle était conçue dans l'acte d'union de 1707? Est-ce qu'au fond, c'était moins des questions identitaires et politiques que des considérations économiques? Qu'est-ce qu'on voulait en récupérant de l'autonomie politique?
Alors, la demande d'autonomie politique, elle date essentiellement des années 60-70. Et donc, à l'époque, elle était nourrie par la crise économique qui frappait l'Écosse et le Pays de Galles, d'ailleurs, plus durement que l'Angleterre. Et dans les années 80, la demande autonomiste, elle se transforme, parce que les années 80 voient l'élection répétée de gouvernements conservateurs sous le leadership de Margaret Thatcher, puis de John Major. Et alors là, la demande d'un parlement écossais, elle est justifiée d'une autre manière, c'est-à-dire que les Écossais, n'ayant pas voté pour les conservateurs majoritairement depuis la fin des années 50, et donc votant systématiquement travailliste dans les années 80, tandis que les conservateurs étaient tout le temps réélus à la faveur du vote anglais, l'autonomisme politique change d'argumentation. Jusque-là, l'idée, c'était de trouver une réponse à la crise économique. Et désormais, l'argument principal, c'est l'argument du déficit démocratique dont souffriraient les Écossais à l'intérieur du Royaume-Uni, car ils devraient subir sans cesse des gouvernements qui ne souhaitent pas. Et donc l'idée, c'était d'avoir un parlement et un gouvernement en Écosse où les Écossais pourraient au moins avoir un parti qu'ils auraient élu.
On va prendre la direction de l'Irlande depuis le Brexit. Ce dont on parle de plus en plus, c'est la question de la réunification de l'Irlande.
Moi, j'ai toujours cru dans une Irlande unifiée, au niveau culturel, social, politique. J'ai toujours aspiré à ça. Mais quand je me suis réveillée le 24 juin 2016, le jour où il y a eu le référendum sur le Brexit, c'est la première fois que je me suis dit « Ok, cherchons la voie pour la réunification de l'Irlande ».
Voilà, c'est un témoignage parmi beaucoup d'autres, recueilli par Channel 4 en mai 2018, cette jeune étudiante nord-irlandaise. C'est vrai que depuis ce référendum de juin 2016, Philippe Covey, on ne cesse d'évoquer cette perspective d'une éventuelle réunification. Je vais poser la question difficile, brutale à Nathalie Duclos. Est-ce qu'on peut effectivement croire en la réunification de l'Irlande, Philippe Covey? Même chose, on va avoir le temps de détailler. Mais je vais commencer par la question directe.
Personnellement, je n'y crois pas. Parce que, pour une raison finalement assez simple, c'est que tout ce que disent ceux qui parlent de réunification depuis le référendum sur le Brexit, personne n'évoque les modalités de mise en œuvre de cette réunification. Or, depuis le Good Friday Agreement de 98, donc l'accord de paix de 98, s'il doit y avoir réunification, il doit y avoir deux référendums, un en Irlande du Nord, un en République d'Irlande, et ces deux référendums doivent porter sur la même question, doivent être simultanés, et doivent être acceptés par le gouvernement dublinois et par le gouvernement britannique.
Et pour l'instant, Dublin ne l'envisage pas?
Donc, aujourd'hui, les conditions sont telles que, si on veut respecter l'accord de paix, un double référendum qui donnerait deux majorités favorables à la réunification avec deux gouvernements britanniques et irlandais qui seraient d'accord est quasiment improbable.
Donc, Dublin n'est absolument pas disposé à envisager une consultation, même pas la réunification, une consultation.
Mais donc ça serait une consultation qui n'aurait pas de valeur constitutionnelle. C'est à partir du moment où on veut rentrer dans un processus de réunification par la voie constitutionnelle, on doit respecter les accords de 98. Or, je ne vois pas aujourd'hui, notamment à cause des tensions autour du Brexit, comment Londres et Dublin pourraient s'entendre sur une date de référendum et sur une question commune. Donc je pense qu'il y a effectivement tout un discours pro-réunification qui se met en place. mais ce discours est un discours éminemment politique et tactique. Je pense qu'il est essentiellement porté par le Sinn Féin en particulier, enfin globalement par le camp nationaliste, pour alimenter une sorte de mouvement opposé à la Grande-Bretagne, enfin à Londres, mais qu'il ait des chances d'aboutir, personnellement, je n'y crois pas.
Ça, c'est l'opinion de Philippe Covey. L'opinion irlandaise, qu'en dit-elle ?
L'opinion irlandaise, vous voulez dire en Irlande du Nord ou
les deux ?
Les deux. Alors, en Irlande,
que disent les sondages ?
Alors, en Irlande du Nord, il y a visiblement une remontée des opinions favorables à la réunification. Ce sont des sondages très divers, donc ils ne sont pas forcément extrêmement cohérents dans leur ensemble, mais on sent une remontée. Il reste aussi, malgré tout, en Irlande du Nord, une bonne partie de l'opinion qui n'a pas d'opinion, qui ne veut pas avoir d'opinion. Je lisais un sondage récent, je crois qu'il datait de septembre, où c'était 22% des sondés qui ne donnaient pas d'opinion.
Et c'est beaucoup.
Donc 22%, c'est beaucoup. Je pense que
c'est
l'aspiration à la réunification est très forte. Mais
ils ont pas d'opinion parce que parce qu'ils ont pas d'opinion ou parce qu'ils veulent pas choisir. Je veux dire par là, est-ce que ce sont des indécis qu'on pourrait convaincre, qui restent à convaincre, ou est-ce que ce sont des gens qui ne veulent pas avoir d'opinion sur ce sujet ? Vous comprenez la différence ?
Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que vous avez, depuis l'accord de paix globalement a consisté à ce que les deux communautés ne se tirent plus dessus, ne se tuent plus, ne s'entretuent plus, mais que les deux communautés restent globalement sur leur position. Mmh. On n'a pas eu de transformation des projets politiques communautaires. Mmh. Donc vous avez une partie de ces indécis qui veulent préserver cette espèce d'équilibre, cette espèce de d'équilibre précaire où on n'a pas à choisir. Et puis vous avez aussi, je pense... là, c'est peut-être un point de vue, je sais pas vraiment sur la base d'analyse ou de fait que je vous dis ça, c'est peut-être plus un sentiment. Vous avez aussi des gens qui, je pense, attendent les termes de cette réunification. S'il devait y avoir les réunifications, quels en sont les termes? Et je pense notamment les termes en termes de subventions publiques. L'Irlande du Nord est la région la plus subventionnée du Royaume-Uni. Donc, est-ce que s'il y a une réunification,
Qui paiera pour l'Irlande du Nord? Est-ce que Dublin paiera?
Donc, je pense que ces questions-là sont importantes.
Nathalie Duclos, votre sentiment, est-ce que vous pensez que cette perspective est plausible?
La perspective d'un référendum
d'une réunification irlandaise.
Parce que, comme disait Philippe, il faut d'abord passer par la case référendum. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, dans les accords du Vendredi Saint, la clause qui dit qu'il y aura un référendum si une majorité se prononce pour un référendum de réunification est assez ambiguë dans ce sens qu'on ne sait pas ce qui définirait une majorité. En l'absence justement de référendum, vous voyez, il faudrait qu'il y ait une majorité qui se dégage pour la réunification, pour qu'un référendum proposant la réunification soit proposé. Et donc je ne vois pas très bien comment Londres pourrait décider d'accepter finalement, comme un petit peu dans le cas écossais, pourquoi Londres choisirait de donner à l'Irlande du Nord le droit d'organiser ce référendum.
Oui, Philippe Covey, c'est ce qui vous faisait dire dans un article récent publié dans The Conversation que cet accord de 98, alors certes il a eu beaucoup d'avantages et notamment celui de mettre un terme aux violences, mais il comportait aussi un certain nombre de failles. C'est ce que vous disiez.
C'est un accord qui est en fait une sorte d'architecture incroyable, très baroque, plein de relations, plein d'institutions, plein d'équilibres qu'on trouve pour que tout le monde trouve son compte. Donc globalement, on dit à chaque acteur, notamment les grands acteurs en Irlande du Nord, c'est-à-dire les deux communautés et leur parti, on leur dit, vous avez le droit de rester qui vous êtes. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous entretuer. Donc on vous demande, à la place d'utiliser la violence, on vous demande de participer aux institutions politiques, mais ces institutions politiques vont vous reconnaître comme communauté à part égale et comme partenaire à part égale. Donc cet accord, une des grandes failles de cet accord, c'est que, et on le voit bien puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'institutions depuis 2017 en Irlande du Nord, elles sont tombées en 2017, les deux communautés ne se sont pas rapprochées. Les deux communautés ont plutôt même eu tendance à se polariser, à camper sur leur position, chacune essayant d'affaiblir l'autre.
Au point qu'on peut craindre un retour des violences ?
Alors, craindre un retour des violences, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que l'absence d'institutions depuis plus de 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans, et la question du Brexit... exacerbe, un petit peu comme en Écosse, exacerbe cette question identitaire, notamment du côté, enfin surtout du côté nationaliste. Et certains utilisent un petit peu ce flou, cette espèce de vide politique, pour revenir à des méthodes violentes. Mmh. On a eu quelques attentats assez spectaculaires récemment. Je pense notamment à celui de Leroy McKee. À Derry il y a quelques mois, il y a une volonté de la part de certains groupes de retourner à la violence. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont la capacité de déstabiliser complètement les choses ? Je n'en suis pas non plus persuadé.
Philippe Covey, quels ont été les effets des négociations sur le Brexit sur les deux camps, le camp unioniste et le camp nationaliste, et qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochaines élections ? Vous avez un peu posé le décor tout à l'heure. On a côté unioniste le principal parti, le DUP, Parti Unioniste Démocrate d'Irlande du Nord, qui a, on s'en souvient, rejeté l'accord de Theresa May, qui donc de fait a activement participé à la chute de son gouvernement. On a toujours côté unioniste un autre parti qui est là, qui est le parti unioniste d'Ulster, le UUP, qui est-ce qu'il pourrait lui tirer bénéfice de tout ça ? Et surtout, est-ce que le camp nationaliste va pouvoir finalement se frotter les mains et récupérer de nouveaux sièges compte tenu de l'échec politique du DUP ?
Alors, Je pense qu'il y a, il y a deux dimensions dans votre question. Il y a une dimension qui serait purement électorale, c'est-à-dire quel va être le résultat de l'élection qui vient. Et ensuite, il y a une dimension de tactique et politique, c'est-à-dire que va faire le parti ou les partis, que vont faire les partis qui vont être à la Chambre des communes, avec quelle majorité ils vont travailler. Sur le plan électoral, la situation en Irlande du Nord est très incertaine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de de renouvellement du paysage électoral. On voit pour la première fois des accords électoraux entre le SDLP et le Sinn Féin. On voit le DUP qui est en position de faiblesse, visiblement. Est-ce que cela signifie que le DUP et le Sinn Féin vont devenir ne vont plus être les partis majoritaires en Irlande du Nord ? C'est moins sûr. C'est-à-dire que proportionnellement, ils vont peut-être perdre des voix et peut-être des sièges.
Mais ils risquent de rester quand même les deux acteurs majeurs.
Voilà. Sachant que le Sinn Féin, pour des raisons idéologiques, refuse de prendre ses sièges à la Chambre des communes de Londres, on risque quand même d'avoir un DUP quasiment comme seul parti ou un parti très fortement représenté à la Chambre des communes. C'est un risque, c'est une hypothèse que je formule là. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est que va faire ce DUP ? Est-ce que ce DUP va travailler avec une majorité conservatrice ? Et sur quel projet ? Et c'est là que se pose la question de l'accord que Boris Johnson a conclu avec Bruxelles. Le DUP refuse cet accord. Pour l'instant, n'en veut pas.
Et il n'y a pas de raison que ça change.
Donc, on risque d'avoir une sorte d'impasse politique à nouveau, malgré ces élections.
Avant d'accueillir une nouvelle invitée par téléphone, Nathalie Duclos, encore peut-être une question. Je demandais tout à l'heure si vous croyez l'un et l'autre en la perspective d'une réunification. Il y a quelque chose, un sentiment qui semble assez partagé du côté du Royaume-Uni, en tout cas qu'on entend parfois. C'est cette idée que précisément l'Irlande n'a jamais été un État indépendant, un territoire unifié, politiquement indépendant. Qu'en est-il réellement d'abord et qu'est-ce que cette vision-là nous révèle des représentations qu'on se fait en Grande-Bretagne de l'Irlande ? Nathalie Duclos.
L'idée que l'Irlande n'aurait jamais été un État indépendant, c'est-à-dire dans le sens où l'Irlande aurait toujours été sous la domination l'île de Grande-Bretagne.
Oui.
Je crois que cela révèle à la fois une réalité historique quand même depuis le Moyen-Âge et un sentiment de, en tout cas traditionnellement, un sentiment de supériorité très très ancien, qui est né à la fois de l'anti-catholicisme lié à la réforme protestante, lié au fait que pendant le XVIIe siècle, le Royaume-Uni s'est construit dans une lutte des protestants et du Parlement contre des rois catholiques absolutistes. Donc vous avez la dimension anti-catholique qui peut expliquer ce sentiment de supériorité vis-à-vis de l'Irlande. Vous avez aussi au XIXe siècle l'idée commune en Europe que l'Europe est divisée en races et la race britannique serait supérieure à la race irlandaise. Donc tout cela a un ancrage historique très profond.
Alors que l'intégrité territoriale du Royaume-Uni est aujourd'hui menacée, il convient de s'interroger sur les liens à la fois culturels et humains qui unissent les différentes nations de cet ensemble hétérogène. À la suite de la grande famille irlandaise du XIXe siècle, nombreux sont les Irlandais à avoir émigré du côté de l'Écosse. Comment ont-ils été accueillis? Qu'en est-il aujourd'hui? La cohabitation entre les différentes communautés est-elle bonne? Alors il y a un espace qui est privilégié pour regarder comment les choses se passent, c'est les stades de foot. Voilà, un chant des supporters du Celtic Football Club, qui est un club de foot écossais, fondé en 1887 à Glasgow par des migrants irlandais. On va retrouver par téléphone Géraldine Vaughan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rouen. Vous avez écrit un article consacré aux tensions, aux discriminations qui peuvent exister dans le football écossais. Football, guerre de religion, politique et argent en Écosse. Vous y racontez comment en Écosse, les stades de foot ont été des arènes dans lesquelles se jouaient des rivalités et des haines entre écossais et irlandais. Parce qu'effectivement, après les grandes migrations de la fin du 19e siècle, il y a plusieurs clubs de foot qui ont été créés en Écosse par des Irlandais. C'est le cas du Celtic Football Club, qui revendiquait et qui revendique peut-être aujourd'hui encore assez fièrement ses origines irlandaises et catholiques. En fait, le foot, Géraldine Vaughan, a été le nouvel espace dans lequel se sont jouées les haines entre... utilisons l'expression avec des guillemets, mais écossais de souche, et puis ces Irlandais fraîchement débarqués en Écosse, Géraldine Vaughan.
Alors, c'est un des espaces à la fin du 19e siècle. Comme vous l'avez dit, le Celtic a été créé en 1887. Donc c'est la grande rivalité entre le Celtic fondé par un membre du clergé, en fait, irlandais et catholique, et le Rangers Football Club, qui est fondé par des Écossais quelques années auparavant. Donc le football, à la fin du 19e siècle, et notamment dans la rivalité qui va naître entre les Rangers et les Celtic, qu'on appelle des Old Firm, hein, c'est le derby de Glasgow. Cette rivalité-là, elle est une rivalité, effectivement, comme vient de le dire Nathalie Duclos, où s'expriment des méfiances en termes de race, en termes de religion, et ce que vous avez évoqué auparavant. Alors, il y a toute l'histoire du XXe siècle après, et finalement, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que le football serait le dernier bastion en Écosse où s'exprime ce qu'on appelle le sectarisme. C'est-à-dire cette opposition entre descendants d'Irlandais catholiques, si vous voulez, et puis descendants d'Irlandais protestants et les Écossais protestants en général. Mmh. Et ce qu'on ne sait pas bien dire, c'est si le football provoque finalement cette haine sectaire ou s'il est simplement un résidu, le dernier bastion de la haine sectaire en Écosse.
Ça, oui, parce qu'il y a cette grande question qui travaille les historiens écossais depuis longtemps, c'est est-ce que ce foot a seulement été le révélateur des tensions politiques et religieuses, ou est-ce qu'il a alimenté ce sectarisme pour l'asseoir durablement dans la société? Et si vous nous dites que c'est le dernier bastion du sectarisme, la réponse est claire. Non, mais je ne sais pas, c'est vous qui l'a donné.
C'est-à-dire qu'il y a encore des disputes là entre les historiens et les sociologues écossais à l'heure où je parle. C'est-à-dire que certains voient là-dedans, effectivement, certains disent, mais non, le football c'est un révélateur d'une haine profonde qui n'a jamais quitté la société écossaise. Et des historiens avec qui moi je suis d'accord argumentent que c'est simplement un reliquat culturel, si vous voulez, de ce sectarisme. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement écossais a légiféré. En 2011, il y a une loi spécialement dirigée contre les comportements inacceptables au football. dans les stades de football, pardon, et autour, dans les pubs, qui visaient à interdire ce que vous avez passé plus tôt, les chants véritablement sectaires, tant du côté Celtic que du côté Rangers. Mais la loi a été abrogée en 2018. On a estimé que finalement, elle n'avait plus lieu d'être. Et donc, voilà. Et donc, ces tensions sont visibles aussi et font légiférer le Parlement écossais.
Si on revient aux origines de ces tensions, dans l'espace de l'arène sportive, dans l'espace du stade de foot, finalement, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que les Écossais reprochaient à ces supporters d'origine irlandaise? Est-ce que il s'agissait seulement d'un différend religieux ou est-ce qu'il y avait aussi autre chose? Et quoi?
Alors, qu'est-ce qui se jouait? C'est vrai que le football, notamment, c'est encore le cas, c'est un sport populaire. Donc, on n'est pas tellement dans une tension de classe au sens où ce sont des classes ouvrières, des joueurs issus de la classe ouvrière qui affrontent d'autres joueurs issus de la classe ouvrière. Alors, ce qu'on reproche aux Celtics, c'est les liens très affichés dès la naissance du club avec, justement, le nationalisme irlandais. Puisque, par exemple, en 1892, quand le Celtic Football Club inaugure son nouveau stade à Parkhead, c'est le grand nationaliste irlandais Michael Davitt qui vient inaugurer le stade. Et donc, il y a toujours eu des liens très clairs entre le club de foot et les ligues nationalistes irlandaises installées en Écosse, qui soutenaient donc la lutte en Irlande contre les Britanniques. Donc, on leur reproche à la fois, Nathalie Duclos a parlé tout à l'heure d'anticatholicisme, on leur reproche leur religion, leur appartenance religieuse, et on leur reproche aussi leur soutien politique à l'indépendance irlandaise.
Alors ça c'est d'autant plus étonnant parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'il y a des Écossais d'origine irlandaise qui revendiquent justement leur irlandité, je mets des guillemets, peuvent soutenir les nationalistes écossais. Il y a à l'intérieur du SNP des Écossais d'origine irlandaise, c'est pas un problème.
C'est pas un problème. Alors
c'est étonnant. C'est étonnant.
C'est étonnant, mais il faut que vous voyez ça dans le contexte plus large, qui est le ressentiment anti-britannique finalement, anti-anglais. On peut s'allier entre Écossais et Irlandais parce que il y a quelque part un rejet de l'Angleterre et de la suprématie britannique.
Et on peut s'entendre sur le rejet de l'Angleterre. Si on regarde un petit peu les choses, Géraldine Vaughan, et puis ensuite je vais faire réagir nos invités en plateau. Est-ce que il y avait, parce que c'est quand même assez étonnant de se dire que pendant des décennies, pour pas dire beaucoup plus, toute cette vague migratoire a eu des difficultés à s'intégrer, que les tensions identitaires et religieuses ont perduré. Est-ce que cette intégration, cette difficile intégration sur les terres écossaises s'est faite de façon différenciée entre les Irlandais catholiques et les Irlandais protestants?
Oui, c'est une très bonne question et effectivement, il y a une différence. On observe sur le plan socio-professionnel que les Irlandais protestants qui s'installent en Écosse, donc à partir essentiellement de la deuxième moitié du 19e siècle, s'intègrent plus facilement dans la société écossaise, notamment en raison de ces affiliations religieuses. Donc il y a une lenteur de l'intégration des Irlandais catholiques qui est avérée. Cela étant, il y a certains historiens qui insistent sur le fait que finalement, peut-être que les différences entre Irlandais catholiques et Irlandais protestants en termes d'intégration ne sont pas si flagrantes et si grandes, parce que le problème c'est quand même qu'à la fin ce sont des Irlandais. Et donc ça renvoie à ce que Nathalie Duclos évoquait tout à l'heure, ça renvoie à ce que vous avez appelé ce regard finalement britannique sur les Irlandais que l'on trouve difficile à intégrer ces Irlandais. Finalement, ils sont très différents des Britanniques et on est toujours gêné de savoir comment on va les intégrer finalement dans la société britannique.
Alors on va faire réagir nos invités. On va commencer par Toulouse, Nathalie Duclos, et puis ensuite on reviendra à Paris avec Philippe Coven. Nathalie Duclos.
Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Géraldine Vaughan, autant sur le sectarisme en tant que reliquat culturel. Moi, j'appellerais ça de la ritualisation, en quelque sorte, de la différence identitaire pour des couches populaires qui trouvent là une façon de revendiquer quelque chose au plan identitaire. Ce sont des majorités blanches, mais on se retrouve dans la revendication minoritaire par la revendication d'une identité catholique. Voilà, et pour ce que vous disiez de l'alliance entre les nationalistes écossais et puis les personnes d'origine irlandaise en Écosse, qui serait étonnante, j'ajouterais que pendant la première partie de son histoire, le SNP justement n'attirait pas le vote des personnes écossaises d'origine irlandaise. Et ce n'est que quand le parti s'est clairement donné une identité de gauche et qui s'est mis à courtiser les voix des couches populaires que les personnes d'origine irlandaise se sont mis à voter pour le SNP.
Et donc, même certains à militer, hein.
Et à militer, bien sûr, oui. Mais parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les Écossais d'origine irlandaise sont Écossais, et cela fait quand même fort longtemps que leurs ancêtres sont arrivés en Écosse.
Philippe Covey.
Alors, la question du sport m'a fait penser que finalement, le sport a toujours été dans le nationalisme irlandais un des outils de la revendication. La création de la Gaelic Athletic Association dans les années 1880, tous les sports gaéliques sont un des foyers du nationalisme au 19e. Donc le sport a toujours été, je ne sais pas si ça peut aider Géraldine dans ses recherches, mais le sport en Irlande, dans le nationalisme irlandais, a toujours été un des vecteurs, un des instruments de la revendication nationaliste. S'agissant de la question de l'intégration des Irlandais dans les sociétés d'accueil, il se trouve que je connais pas forcément particulièrement la dimension écossaise, mais ce qui est surprenant, c'est que ces Irlandais qui partent aux États-Unis en quelques générations sont très très bien intégrés et s'intègrent très bien dans le Parti démocrate, par exemple.
Oui, puis un autre point qui peut être amusant à mentionner, c'est qu'on parlait de ces discriminations dont ont fait les Irlandais en Écosse. Aujourd'hui, ils prennent leur revanche, et notamment leur revanche sur la question de l'ancrage de l'Union européenne, parce qu'il paraît que lorsque vous êtes écossais, mais que vous avez des grands-parents irlandais, vous pouvez aujourd'hui demander un passeport irlandais, de la République d'Irlande. Ça vous permet d'avoir un ancrage dans l'Union européenne.
C'est un des bénéfices de l'accord de 98, c'est que l'accord de 98 donne, selon des conditions de descendance, je n'ai plus les termes précis, mais je crois que c'est 2 ou 3 générations, vous pouvez, si vous prouvez votre ascendance irlandaise, demander la nationalité irlandaise, et vous pouvez avoir donc la double nationalité, soit si vous êtes britannique, demander une nationalité irlandaise, ou l'inverse.
Ouais, quand on est un écossais, mais qu'on a un de nos grands-parents irlandais, on peut demander la nationalité irlandaise et donc garder un ancrage.
Et il y a depuis le Brexit, depuis le vote de 2016, il y a un afflux massif de demandes en Irlande pour des passeports irlandais.
C'est la revanche des Irlandais. Voilà, et c'est avec ce groupe The Pastels, c'est un groupe écossais qui fleure bon les années 90, qu'on se quitte. Merci infiniment à Géraldine Vaughan qui est avec nous par téléphone. Un grand merci à Nathalie Duclos qui est avec nous en duplex depuis Toulouse. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Un grand merci également à vous, Philippe Covey, de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir éclairés sur cette identité britannique. Je rappelle évidemment que vous pouvez retrouver toutes les références des ouvrages de nos invités sur la page de Culture Monde. 11h53, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et son tour du monde des idées. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Dans une interview à The Economist, Emmanuel Macron a déclaré que le plafond de 3% de déficit du budget annuel de l'État était un débat d'un autre siècle.
Eh oui, le président de la République fait ainsi 2 choses en même temps. 1, il lance un pavé dans la vitrine allemande. Et 2, il prend parti dans un débat qui fait rage en ce moment entre 2 écoles économiques à propos de ça, les déficits et la dette publique. Alors les Allemands d'abord. Depuis son élection en 2017, Macron ne cesse de réclamer à nos partenaires une stratégie commune d'investissement dans les secteurs industriels d'avenir. L'Europe, on le sait, a déjà raté la révolution numérique. Non seulement nous sommes coincés entre les GAFAM américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et maintenant les BATX chinoises, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Mais ces géants du numérique sont en train d'engranger, à notre propos, des milliards d'informations qui alimenteront demain leurs machines d'intelligence artificielle. L'avance prise par certains laboratoires européens dans le domaine, par exemple, des biotechnologies, est contrariée par la Cour de justice de l'Union européenne pour des motifs éthiques, certes respectables, mais dont nos concurrents chinois en particulier se moquent éperdument. Dans bien d'autres domaines décisifs pour l'avenir de nos économies, les meilleurs chercheurs, les start-upers et développeurs européens partent faire fortune aux États-Unis aussitôt qu'ils ont commencé à percer en Europe. Alors oui, il faut de l'argent pour financer des investissements européens, des réseaux européens, des champions européens, si nous voulons continuer à exister autrement que par nos voitures, nos avions ou nos produits alimentaires. Et l'Allemagne, aux caisses pleines, devrait se montrer plus clairvoyante et plus hardie. Le président français Emmanuel Macron semble avoir perdu patience dans ses tractations avec ses partenaires allemands. C'est ce qu'écrit Mikhail Ivanovitch sur le site de CNBC. Cette fois, il ne cherche plus à les enjôler, il tape sur la table. Il ne demande pas seulement à l'Allemagne d'investir dans des projets communs européens, il lui demande aussi aux Allemands de consommer davantage, de faire moins reposer leur croissance sur leurs exportations et davantage sur la demande intérieure. Et la France en sait quelque chose, puisque au sein de la zone euro, notre pays est le premier client de l'Allemagne et notre déficit commercial avec l'Allemagne est de l'ordre de 40 milliards par an. Nous avons autant de raisons de nous plaindre de cette asymétrie, bah mon Dieu, que les Américains.
Mais voilà Brice, le problème c'est que les Allemands nous répondent depuis toujours, mettez d'abord de l'ordre dans vos finances et puis ensuite on verra.
Mais oui, petit rappel, les finances publiques de l'Allemagne ne sont pas seulement à l'équilibre, mais elles présentent un excédent budgétaire de 1,9% du PIB. L'Allemagne réduit sa dette publique quand nous aggravons la nôtre. La leur est aujourd'hui inférieure à 60% de leur PIB, la nôtre frôle les 100%. Si le déficit était, comme on le répète à Paris, le meilleur moyen de lutter contre le chômage, répètent les Allemands, alors celui-ci serait très élevé en Allemagne et faible en France. Or, c'est exactement le contraire. Moins de 5% de chômeurs en Allemagne, 8,5% en France. Plus grave encore, il semble bien que la France sera, en 2019, le seul pays de la zone euro à ne pas respecter ce fameux plafond des 3% de déficit des finances publiques, considéré comme la principale règle de copropriété de l'euro. Partout ailleurs, les comptes publics sont désormais assainis. Macron avait promis d'en faire de même, mais la crise des gilets jaunes est passée par là et le pouvoir a renoué avec les anciennes politiques de largesses à crédit. Certains s'inquiètent déjà d'un retour discret de l'économie de la demande. Or, les dettes d'aujourd'hui sont payées par les impôts de demain. Mais en sommes-nous si sûrs? Et si l'endettement posait moins de problèmes aujourd'hui qu'hier? Et c'est là qu'il faut rendre compte du débat qui secoue en ce milieu les milieux de l'économie. Comme l'expose Philippe Trenard dans le dernier numéro de la revue Commentaire, ce débat oppose d'un côté des gens comme Lawrence Summers ou Olivier Blanchard et de l'autre Kenneth Rogoff. Pour les premiers, les États auraient tort de ne pas continuer à s'endetter étant donné tout simplement la faiblesse des taux d'intérêt maintenus par les banques centrales. Aussi longtemps, en tous les cas, que ces taux demeurent inférieurs à la croissance, l'opération demeure neutre. Certes, les taux d'intérêt pourraient remonter soudain et dans ce cas, le service des dettes deviendrait bien plus coûteux pour les États. Mais toute une série de facteurs structurels rendent cette hypothèse peu probable. On parle du vieillissement des populations, de la fameuse stagnation séculaire et puis surtout de l'abondance de l'épargne. Il y a même une théorie monétaire moderne selon laquelle les dettes publiques peuvent croître sans fin dans la mesure où bien leur remboursement s'effectue dans une monnaie que les banques centrales elles-mêmes peuvent imprimer sans limite. Absurdité, selon Kenneth Rogoff. Le jour où les acheteurs de bons du Trésor estimeront que l'État émetteur n'est plus capable de payer les intérêts de ses dettes, ils ne voudront pas non plus de sa monnaie. La seule issue à la hausse sans fin de l'endettement, on le connaît, c'est toujours le même, c'est l'inflation. Et ce n'est pas parce qu'elle est aujourd'hui inexistante que cela durera toujours.
En tout cas, le débat, lui, durera toujours. Merci beaucoup. On peut retrouver évidemment votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.